Alors, cette présentation s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences intitulée Les visées de la figuration, qui ont lieu chaque samedi, chaque dernier samedi du mois, autour de l'exposition La fabrique des images, dont le commissaire est Philippe Descola. Le mois dernier, nous avons eu une présentation faite par Anne-Christine Taylor sur l'animisme amazonien. Et dans un mois, nous aurons une présentation sur l'analogisme et sur le monde des chimères. Et des images chimériques. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir deux anthropologues qui vont nous faire une présentation sur le totémisme dans le monde australien. Alors, Barbara Glosewski
Bonjour.
est donc chercheure, directeur d'études au laboratoire d'anthropologie sociale. Elle est l'auteur d'un grand nombre de livres et d'articles. Parmi ces livres, il y en a certains que vous pouvez consulter ici. Particulier Rêve en colère, donc qui est consultable dans cette salle Kerschach, et qui est aussi à la librairie du musée du Quai Branly. Par ailleurs, elle a co-écrit avec Jessica Delargy Piste de rêve, donc sur les figurations et les peintures australiennes. Donc, de la même façon, vous pouvez trouver ce livre. À la librairie du musée du Quai Branly, ou bien le consulter ici dans la médiathèque. Alors, outre les nombreux livres que Barbara Glosewski a écrits, elle a aussi réalisé des CD-ROM et des documentaires. Et c'est en partie à partir de ces images qu'elle a montées, qu'elle a utilisées, qu'elle a mises à disposition du public. Qu'elle va aujourd'hui donc faire une présentation pour vous permettre d'approfondir pour ceux qui ont déjà vu l'exposition, ou bien de préparer la visite de l'exposition pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Elle va pour cela être accompagnée donc de Jessica Delargy, qui est une anthropologue qui a travaillé, qui a fait un doctorat à la fois à Paris et à Melbourne, qui a travaillé chez les Yolngu du nord de l'Australie. Et qui est spécialisée sur les rapports entre l'art et le rituel. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a co-écrit avec Barbara Glosewski Piste de rêve. Et dans le catalogue de l'exposition La fabrique des images, elle a aussi réalisé un chapitre sur l'art australien. Voilà, donc je leur laisse la parole. Et puis, après une présentation, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci.
Merci, merci beaucoup. Ça marche, non? Merci beaucoup. Donc, on va organiser cette présentation en deux parties. La première partie sera consacrée à l'art du désert et la deuxième partie, donc, à la terre d'Arnhem où travaille Jessica. Moi, je travaille dans le désert depuis 30 ans, particulièrement avec les Walpiri, dont vous pouvez voir un très grand nombre d'œuvres dans l'exposition La fabrique des images. Alors, j'aimerais juste savoir combien de personnes ont visité l'exposition et ont vu les peintures aborigènes. D'accord, bon, bah, c'est formidable. Donc, vous avez vu des peintures donc Walpiri qui viennent d'une communauté qui s'appelle Yuendumu. Les Walpiri sont à peu près 4 000 et ils occupent un territoire traditionnel qui leur a été restitué suite à un long procès en 1976, qui fait 600 km de nord-sud et 300 km est-ouest. Ils menaient une vie semi-nomade jusqu'aux années 40, quand il y a eu une ruée vers l'or dans le désert, et on les a forcés à habiter dans des réserves. La première qui fut créée, c'était Yuendumu, à la fin des années 40, et ensuite, dans les années 50, une deuxième réserve à 600 km au nord de Yuendumu, juste à la bordure du désert du Tanami, qui s'appelle l'Adjamanou, et c'est là que moi j'ai commencé à travailler en 79. Mais les œuvres que vous voyez là-haut viennent de Yuendumu, parce que c'est à Yuendumu que les peintres ont commencé, les femmes particulièrement, ont commencé à peindre à l'acrylique sur toile, et donc ce sont les œuvres que vous voyez là-bas. Juste avant, une autre communauté du désert où il y a des groupes de langues différentes, donc quelques Walpiri, mais c'est en territoire des Pintubi, et puis il y a aussi quelques Pichanjara. Donc c'est à Papunya qu'avait commencé dans les années 70 ce fameux mouvement des peintures rituelles qui étaient transposées sur des toiles et peintes avec des acryliques, et dont on trouve des exemples dans tous les musées du monde aujourd'hui, toutes les galeries d'art contemporain, et elles se vendent très très cher dans les enchères. Donc le musée a la chance d'avoir une très belle collection qui a été réunie par Françoise Dussard, donc avec les artistes de Yuen Dumou, et Françoise Dussard a écrit un article qui contextualise donc ce mouvement de Yuen Dumou dans le catalogue La Fabrique des Images. Mais la culture à la Djamanou, dont je vais vous présenter des images maintenant, est la même qu'à Yuen Dumou, puisque c'est le même groupe, les Walpiri. Ils initient ensemble leurs jeunes, ils se rendent visite et ils retournent sur leur terre au moment des funérailles ou d'autres rituels. Donc c'est vraiment un seul ensemble, les Walpiri. Donc pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, parce que on se demande toujours qu'est-ce que c'est que ces peintures faites sur toile. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est quelque chose de traditionnel? Alors évidemment, le choix de Philippe Descola dans cette exposition de mettre ces peintures-là pour illustrer ce qu'il appelle l'une de ses quatre catégories ontologiques, le totémisme, c'est que pour lui, c'est bien, ça s'inscrit bien dans la continuité de ce qui était le totémisme traditionnel. Alors vous allez voir par la conférence d'aujourd'hui, aussi bien par ce que je vais vous dire et ce que Jessica va vous dire, que la continuité d'un art figuratif ne signifie pas qu'il n'y a pas de création, et ça vous pouvez le voir en face aux toiles elles-mêmes, mais ça ne signifie pas aussi qu'il y a des enjeux nouveaux dans le fait de peindre et la manière de peindre, et notamment des enjeux politiques dont on parlera maintenant. L'autre aspect qui sera illustré par la conférence, et puis si vous voulez continuer avec d'autres travaux, c'est le fait que le totémisme comme catégorie idéale, telle qu'elle est définie sur les panneaux là-haut dans l'exposition et dans le livre de Philippe Par de la nature et culture, pour les aborigènes ne se réduit pas seulement à cet aspect-là de la catégorie ontologique qu'il définit, c'est-à-dire qu'il y aurait une continuité entre les humains, les animaux, les plantes, la terre, enfin tout ce qui est matériel, et également une continuité d'esprit entre les humains, les animaux et tout ce qui l'appelle les existences, ça peut être la pluie, le feu, etc. Ça, c'est un aspect du totémisme. Mais il y a d'autres aspects du totémisme australien, en tout cas, qui ne correspondent pas forcément à cette définition de la matrice et qui peuvent rejoindre, d'une certaine façon, les trois autres catégories ontologiques qui sont proposées dans l'exposition, que ce soit l'animisme, l'analogisme ou pas vraiment, je dirais, le naturalisme, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que les aborigènes considèrent qu'il n'y a pas une opposition entre nature et culture, et non pas, comme on pourrait le penser, parce qu'ils se considèrent comme naturels, et quand nous on dit les peuples premiers, on dit ils sont plus près de la nature, eh bien non, ils considèrent que la nature est culturelle. Et pourquoi ? Parce que tout ce qui existe sur Terre, les étoiles, tous les phénomènes, en fait, sont le résultat d'histoires, de créations, d'êtres anthropomorphes qui se sont inscrits dans cette histoire du cosmos. Et donc, ils ont laissé des traces dans le paysage et ces traces sont lues comme une culture par les aborigènes qui s'identifient à tout ce savoir hérité de génération en génération, qui est nourri par de nouvelles révélations en rêve. Et donc, chaque site nommé, avec un toponyme particulier, et dans le territoire Walpiri, comme je vous disais tout à l'heure, donc 600 km nord-sud, 300 km est-ouest, il y a des milliers de sites qui sont nommés. Qu'est-ce que c'est que ces sites ? Ben, ce n'est pas de l'architecture. Pour nous, on pense que la culture, c'est le fait de construire des choses. Or, le grand malentendu vis-à-vis des aborigènes, ça a été au moment de la colonisation de l'Australie il y a 200 ans, de dire, eh bien voilà, l'Australie, elle appartient à personne parce qu'ils n'ont rien construit. Donc, ils font partie de la faune et de la flore, ils sont à peine humains, il y a des textes qui le disent. Et donc, juridiquement, on a considéré que l'Australie était terra nullius. Et c'est seulement en 1992 que, grâce à un procès qui a duré pendant 12 ans, dans le nord de l'Australie, à l'est, dans les îles de Torres, il y a un insulaire des îles Torres, donc d'origine mélanésienne, puisque cette partie-là de l'Australie est mélanésienne, qui a gagné une revendication, qui a prouvé, qui a créé un précédent juridique, que les aborigènes étaient en fait propriétaires, enfin les aborigènes et les insulaires, étaient en fait traditionnellement propriétaires de la terre. Et donc ça a annulé le principe de terra nullius. En 1993, le gouvernement australien a passé une loi qui s'appelle la loi Mabo, du nom de cet homme qui avait gagné cette revendication, qui a permis à partir de 1993 aux aborigènes de revendiquer, en prouvant qu'ils avaient des droits sur telle ou telle terre en fonction de leur rituel, hein, puisque c'est par les rituels, les chants, les danses et les peintures que passe la légitimation de ces droits. Alors c'est pas simple comme restitution, hein, il y a des centaines de revendications en cours depuis des années, il n'y en a que quelques-unes qui ont permis aux aborigènes de restituer, de récupérer leur territoire. Donc ces motifs que vous voyez sur les peintures acryliques du désert, en fait, sont des motifs qui relient les gens à des lieux particuliers. Ce sont un peu comme des cartes schématiques, hein. Donc, il y a comme des traces, et les lignes sont comme les chemins, les histoires, les danses, les chants qui relient différents lieux. Et ce principe-là, il vient de peintures rituelles qui se faisaient traditionnellement sur trois supports, dont on va voir des exemples. Le premier, c'est le corps. Hein. Donc on va voir tout à l'heure un rituel où des femmes dansent et elles sont peintes. Et elles sont peintes à chacune avec certains des motifs, chaque femme en l'occurrence, mais les hommes c'est pareil, a des centaines de motifs. À vrai dire, les femmes en ont plus parce qu'elles peignent à l'ocre sur le corps. Et donc il y a beaucoup, il est possible de mettre beaucoup de choses sur les seins, alors que les hommes se couvrent de peinture avec du duvet et les motifs sont plus simples. Mais ce sont des motifs totémiques, donc liés à des ancêtres, animaux, pluie, plantes, et qui à chaque fois sont associés à un ou plusieurs lieux. Et donc quand il y a une danse rituelle, les gens qui sont peints avec ces peintures, les rites féminins sont séparés des rites masculins pour célébrer la terre. Il y a d'autres rites où les hommes et les femmes sont ensemble, notamment au moment des funérailles et pour certaines initiations. Mais ce que nous allons voir maintenant, c'est ce qu'on appelle un yaouliou, c'est-à-dire un rituel féminin. Et qui a filmé ? Eh bien, c'est un Walpiri qui s'appelle Francis Kelly, Djuburula, et ça a été tourné en 1991. Et il avait tourné ça parce que les femmes Walpiri de la Djamanou lui avaient demandé de filmer, parce que nous organisions une exposition à l'époque avec la galerie Baudouin-Lebon, qui se trouve à Paris, dans le Marais, pour présenter justement leur sélection de peintures sur toile de la Djamanou, qui était présentée avec des peintures d'une autre communauté, non Walpiri, à Balgo, en Australie de l'Ouest. Donc, voilà le film qui accompagnait l'exposition. Donc, est-ce qu'on peut lancer le Francis Kelly 1991 ? Merci. Le parcours, formidable, merci beaucoup. Donc là, elles sont en l'occurrence en train de danser le parcours des femmes ancestrales du rêve graine, Mourlou, qui sont des petites graines d'acacia avec lesquelles traditionnellement on faisait des galettes, hein, comme du pain. Et vous pouvez faire un petit peu plus bas le son. Merci. Et donc, ces galettes sont un bel exemple, justement, de la continuité entre les humains, les animaux et la terre, puisque, en fait, les fourmis du désert, il y a une espèce particulière de fourmis du désert, qui ramassent les petites graines, on est dans le désert, hein, il n'y a pas beaucoup de végétation, donc elles ramassent les toutes petites graines minuscules sur des petites tiges qui poussent de manière très espacée dans le désert, et elles les réunissent en un petit tas qui correspond exactement au nombre de graines dont on a besoin pour faire la galette. Donc les femmes qui passent par là et qui chassent pour attraper des lézards, pour creuser le sol, pour trouver des ignames, des tubercules sauvages, ou toute la série des petits marsupiaux qui vivent sous terre et que donc les femmes attrapent comme gibier. Eh bien, quand elles suivent à la trace donc ces chemins de petits tas de graines qu'elles ramassent, et ensuite elles préparent donc des galettes avec. On peut arrêter ce film-là, merci. Alors, vous avez vu les femmes danser avec des grandes tablettes. Ces tablettes s'appellent des yukurukuru. Et vous avez vu sur ces tablettes qu'il y avait des motifs qui ressemblaient au genre de motifs qu'elles avaient sur le corps. Ces tablettes sont considérées par les Walpiri à la fois comme une carte d'identité et une carte géographique. Alors, une carte géographique parce que, de manière synthétique, pour chaque femme a ses motifs qu'elle peint sur ses tablettes en bois. À chaque rituel, elles sont effacées. Lors d'un nouveau rituel, on va repeindre un motif dessus, pas forcément le même, puisqu'il y a une variation de centaines de motifs différents, dans la mesure où, à chaque étape des héros qui ont voyagé pour donc créer le paysage, pour chaque personne, elle est gardienne d'un chemin avec des centaines de lieux sur ce chemin. Et donc, pour chaque étape, il y a des motifs différents. D'accord ? Donc, ce sont ces tablettes-là que les femmes Walpiri ont montrées au tribunal pour récupérer leurs terres. Hein, les Walpiri ont pu récupérer leurs terres avant la loi Mabo, dont je vous ai parlé tout à l'heure en 92, parce que l'ensemble du territoire du Nord en Australie relève d'une autre juridiction, directement du gouvernement fédéral, et n'est pas un État avec son propre gouvernement comme les autres régions d'Australie. Donc, c'est en 76 qu'ils ont récupéré le territoire et qu'ils ont été témoigné en justice. Ça a duré 2 ans, hein, ça avait commencé en 76, et les hommes Walpiri, qui sont présentés dans la littérature traditionnelle sur les aborigènes comme étant ceux qui détiennent le savoir et que les femmes sont reléguées aux sphères domestiques, hein, ça c'était l'aspect disons classique de l'anthropologie qu'on trouvait jusqu'aux années 70, et bien moi j'ai eu la chance en arrivant dans les années 70 d'arriver juste après cette revendication territoriale réussie, et les hommes m'ont dit ah ben tu vas travailler avec les femmes, hein, parce qu'on n'a jamais travaillé avec les femmes ici, et vraiment elles ont beaucoup de choses à dire. Et effectivement c'est eux qui avaient demandé 2 ans avant aux femmes de venir témoigner en justice avec leurs tablettes, parce que disaient-ils, nous on a les mêmes. Et c'est ce qu'on appelle pour les hommes des churinga, mais c'est secret. On ne peut pas les montrer. Donc, que les femmes montrent les leurs, ça fera l'affaire, puisque par définition, elles sont kankarlu, c'est-à-dire que leur savoir est comme le nôtre, mais dans sa dimension publique. Alors que nous sommes kanunchu, disent les hommes, dessous, et c'est le savoir qui est secret, qui est virtuel, qui est latent. Hein, c'est deux concepts qui sont très importants. Jessica fera peut-être le parallèle chez les Yonggu. Il y a l'équivalent avec 2 autres mots qui correspondent à la langue Yonggu. Et donc, ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas aussi des danses secrètes. Hein. Donc, par exemple, en 79, quand j'ai filmé des danses secrètes de femmes, elles m'avaient dit bah, « Tu ne pourras pas les montrer quand tu rentres dans ton pays, sauf à des femmes ». Voilà. Alors, avec le temps, c'est-à-dire particulièrement avec l'émergence de des peintures acryliques du désert dans les années 80, les Walpiri se sont mis à peindre au milieu des années 80, Papounias avait commencé à la fin des années 70. Donc, ils ont réadapté ce qui pouvait être montré en public ou pas. C'est-à-dire que le succès de ces peintures, pourquoi ça les a convaincus de montrer des motifs qui peut-être avant étaient secrets, ou de montrer des danses qui avant pouvaient être secrètes. Certaines, hein, pas tout. Eh bien, c'est pas juste parce qu'il y avait un succès dans le marché de l'art international, c'est parce que c'est grâce à ces peintures à nouveau qu'ils ont pu obtenir de nouvelles reconnaissances, hein, dans un pays qui quand même fonctionnait très fort sous une forme d'apartheid et de rejet et de discrimination. Donc, la raison pour laquelle ils ont décidé de dévoiler un certain nombre de choses, il n'y a pas que les Walpiri qui l'ont fait, mais les gens à Papounia, les gens dans d'autres régions, c'est parce que ça leur permet de défendre leur droit de se faire connaître. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, hein, depuis le milieu des années 2000, où il y a sur Internet YouTube, vous trouverez énormément de documents qui sont fabriqués par les aborigènes eux-mêmes, qu'ils mettent sur le net, justement, pour se battre et défendre un certain nombre de leurs droits. Alors, on en est au niveau du temps, ça va. Je voudrais maintenant, donc vous avez vu les peintures corporelles, les peintures sur objets. Le troisième support qui correspond au motif que vous voyez sur les peintures à l'acrylique sur toile, ici, à l'exposition La Fabrique des images, eh bien, c'est ce qu'on appelle les dessins sur sable. Alors, des dessins sur sable, il y en a de 2 sortes. Il y a des dessins que l'on fait, que font les hommes, dans des cérémonies d'initiation, où ils utilisent, comme pour leur corps, du duvet, c'est-à-dire du duvet d'oiseau ou du coton sauvage, et donc ils collent le duvet pour faire un fond, et il est teinté d'ocre rouge pour faire le motif, et ils dansent dessus, et la danse efface le motif, et fait rentrer la force du rituel et de la peinture dans la terre pour la nourrir, pour que les esprits qui dorment sous terre, donc les esprits du dreaming, Jugurpa, en Walpiri, restituent aux hommes leur force de fertilité, de fécondité, ainsi que la fertilité de toute la terre. C'est pour ça qu'on fait ce genre de cérémonie, mais on les fait particulièrement au moment de l'initiation des garçons, c'est-à-dire de la circoncision. Je dis des, en réalité c'est du garçon, parce qu'on fait, traditionnellement on faisait une cérémonie par garçon. Maintenant ils les regroupent parce que les enfants vont à l'école et donc il faut les mobiliser tous au moment où ils sont en vacances. Alors, les femmes font aussi des dessins sur sable, mais d'une autre manière. Alors, pour certains Jugurpa, certains dreaming, certains totems, notamment les fourmis à miel, les femmes mettent leurs bâtons à fouir dans le sol, ils sont peints, ces bâtons les mettent en relation, pareil, avec leurs ancêtres du dreaming, et pour certains donc, totems, comme les fourmis à miel, elles peignent autour du bâton des motifs sur le sol. Et là, elles utilisent du kaolin blanc. Elles durcissent le sol, qui est le sable dans le désert, enfin, dans ces régions-là, est rouge, donc le fond est déjà rouge. Elles accentuent la rougeur avec de l'ocre et elles peignent en blanc. Voilà. Mais ce que les femmes font sur le sable, c'est traditionnellement tous les jours, aujourd'hui moins souvent, c'est toujours la question de l'école, c'était la manière d'enseigner aux enfants. Elle raconte des histoires sur le sable en utilisant exactement les mêmes motifs qui sont utilisés sur les peintures acryliques. Le principe des traces, c'est-à-dire quand on a un lieu, c'est un cercle, quand on a un déplacement, c'est une ligne, soit droite, soit continue, soit en méandre. Quand des personnes sont couchées, c'est une ligne puisque c'est la trace que laisse le corps au sol. Quand elles sont assises, ce sont des demi-arcs. Et donc, nous allons voir maintenant un récit sur sable raconté par Barbara Gibson Nakamura, qui est donc, vous allez la reconnaître, c'est cette femme qui est décédée il y a des années, qui était ma grande amie, ma mère adoptive là-bas. Et donc, voilà, nous allons voir un exemple. Et vous verrez qu'en fait, les récits sur sable, ça se raconte un peu comme on monte un film. C'est-à-dire qu'on place la scène, on rajoute des choses, non pas comme si on faisait une image fixe, mais pour accompagner l'action qui est racontée avec la parole. Donc là, dans le film, Barbara Gibson utilise un mélange de Walpiri et d'anglais. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure l'histoire, enfin plutôt à quoi correspondent les signes. Donc c'est, merci beaucoup, c'est récit sur sable. Et vous avez la possibilité d'avancer un tout petit peu vite, parce qu'il y a un long générique. Donc Nurlu Jugurpa, c'est le titre du film, ça veut dire le rêve des graines, acacia, dont j'ai parlé tout à l'heure. Nurlu Jugurpa, Jugurpa, donc c'est le rêve. C'est ce qui a été traduit par totem, donc seed dreaming en anglais. Donc histoire sur sable de Barbara Gibson Nakamura. On peut et puntaru, c'est le terme en walpiri pour définir les Kai. C'est l'histoire de Kai et de ses deux filles, ainsi que de Bergeronette Chintirchirpa et son fils. Donc il s'agit de deux femmes oiseaux qui campent ensemble. Voilà, les deux femmes, Bergeronette et Kai. Kai a deux filles. Là, c'est le auvent, donc c'est ce qui définit un campement. Là, c'est le feu, Warlo. Elles ont allumé un feu, donc il y a quatre femmes. Donc il y a trois feux dans le campement. Kai se couche. Elle se rapproche du feu. Elle s'assoit. Une de ses filles lui fait face et l'autre lui fait face. Vous voyez, elles sont assises en tailleur, face à face. La mère avec ses deux filles. L'autre femme arrive, Bergeronette, elle rentre de la chasse. Et elle s'assoit. Le dos aux trois autres femmes. Et à côté, elle pose un koulamine, donc un plat à nourriture. Elles sont en train de préparer les graines. Nakamura, Et l'autre, Bergeronnette, qu'elle appelle aussi Nakamara par son nom de peau, mais on ne va pas rentrer dans le détail du système de parenté, elle a ramené du gibier de la brousse. Elles ont cuit la galette, donc elle se déplace, elle marche, elle va la poser de l'autre côté du feu pour Bergeronnette. Toujours elle se mettait le dos aux autres femmes. Et elle prenait la galette en échange de la viande qu'elle avait apportée. Donc elle a apporté du kangourou. Toujours elle reste le dos aux autres. Là, elle raconte une histoire qui est racontée aux enfants vers 10-11 ans, notamment pour les préparer à l'initiation. C'est-à-dire aussi bien les garçons que les filles. Et je vais vous expliquer en 2 minutes après pourquoi. Alors, changement de sel. D'accord ? Tout le monde va se coucher. Toujours le feu, on l'allume. Et toujours, Bergeronnette se couche le dos vers les autres femmes. Kai se couche près du feu, le dos à côté du feu. Et ses deux petites filles à côté, enfin deux jeunes filles. La grande à l'extérieur et la petite entre sa sœur aînée et la mère. Un autre feu. La nuit, de temps en temps, il faut se lever pour allumer, pour remettre des branches dans le feu. Ça y est, c'est le matin. La petite sœur se lève. Elle s'assoit, puis elle part à côté. Ça, c'est ma fille, à l'époque, elle a 3 semaines, qui est en train de faire du bruit, qui commente. Voilà, donc elle se balade dans le campement. Et le matin, elle part chercher de l'eau dans un trou d'eau. Vous voyez le cercle, le trou d'eau est représenté par un cercle. Les deux filles sont représentées par la trajectoire de leur marche. Il y en a une qui s'assoit, donc toujours le demi-cercle avec son plat au bord du trou. L'autre creuse pour remplir le plat avec de l'eau. On va s'arrêter ici, merci. Alors, l'histoire continue pendant 1 heure. Ce qui est... Vous voyez à quel point c'est pédagogique, c'est extraordinaire. Hein ? Et donc, maintenant, quand vous irez revoir peut-être les peintures là-haut, eh bien, pensez à ça. C'est-à-dire que la peinture sur toile, elle a crypté un instant, hein, tel que le sable nous montre tous les signes arrêtés, alors qu'ils s'inscrivent dans une dynamique d'histoire. Hein ? C'est pour ça qu'une peinture est extrêmement riche, parce qu'en fait, elle se déploie comme une histoire, avec plusieurs versions selon le public. Hein ? Donc, forcément, on a besoin de savoir de quoi il s'agit. Hein ? On ne peut pas juste avoir un seul mot pour dire « Ah oui, ça c'est le site X ou Y et c'est tel totem. Hein ». Ça ne suffit pas. La richesse qui est dedans n'est pas toujours donnée par les peintres. Mais petit à petit, on apprend à recouper les choses, mais on ne peut pas deviner ce qui est sur une peinture parce que les mêmes signes sont utilisés pour dire des choses différentes. Vous avez vu qu'elle est en quelque sorte l'alphabet, hein, c'est polysémique, hein, puisque un demi-cercle peut être utilisé pour n'importe quel personnage assis, qu'il soit anthropomorphe, animal, plante, etc. Voilà. Alors pourquoi c'est à raconter au moment des initiations ? Eh bien parce que, en fait, pour que vous connaissiez l'histoire, mais elle est racontée dans Rêve en colère, vous l'aurez en entier, Bergeronnette cachait un fils adulte dans son ventre. Et les deux jeunes filles vont rêver qu'il y a un homme qui se cache quelque part et elles vont partir pister le rêve qu'elles ont eu. Et elles vont le trouver parce que tous les jours, quand Bergeronnette allait soi-disant à la chasse, en fait, elle laissait sortir son fils de son ventre pour qu'il aille chasser pour elle. C'est pour ça que le campement était un peu organisé comme une famille. Hein, Bergeronnette jouait le rôle de l'homme, elle prenait la place de son fils et les deux jeunes filles vont expliquer aux jeunes garçons qu'il devrait les épouser parce que c'est pas bien de vivre dans le ventre de sa mère. Merci. Donc, je passe la parole à Jessica, qui donc, il faut qu'on change de machine, qui va nous parler donc de la terre d'Arnhem et des Yomgu. Vous avez des questions ?
Est-ce qu'il y a des questions ?
c'est un épisode du mythe des graines. Le rêve des graines a beaucoup, beaucoup d'histoires, dont une qui raconte les oiseaux Caille et Bergeronnette, parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Les choses sont toutes reliées en constellation. Il n'y a pas les uns qui sont gardiens du kangourou, les autres qui sont gardiens des graines. C'est en fait, il y a des constellations d'animaux, de plantes, d'autres phénomènes, tout ce qui est nommé dans la nature et la culture est réparti. Et donc, ça crée des constellations d'éléments qui sont connectés par des histoires. Et donc, chaque groupe, chez les Walpiri, ça se passe du père à ses enfants. Donc, les filles héritent de leur tante paternelle. Et les garçons de leur père, enfin du groupe de leur père, et donc se transmettent en ligne patrilinéaire ce genre de récit. Mais on peut rêver d'autres épisodes. Donc on ne sait pas quand a été rêvée l'histoire de Bergeronnette et Caille, mais en tout cas, d'après Barbara Gibson qui le racontait, elle l'a entendue quand elle était petite fille, et puis sa mère lui a dit, ou sa grand-mère, je ne sais plus, qu'elle l'avait eu de sa grand-mère, donc... Voilà, mais forcément que tous les mythes ont été inventés à un moment donné. Et il y a des mythes que nous réadaptons aussi dans notre culture. Donc il y a des motifs qui se retrouvent, mais il y a des variations qui permettent de faire rentrer dans le système des choses qui arrivent aux gens, hein, qui font partie de leur vie quotidienne. Voilà.
On aura le temps pour d'autres questions après. Donc moi, je vais vous parler plus particulièrement de la Terre d'Arnhem. J'ai commencé par cette peinture-ci parce que vous retrouvez certains éléments dans cette peinture qui sont similaires à ce qu'on peut voir dans la peinture du désert, à savoir les traces d'animaux. Donc ici, c'est des traces d'oiseaux, de pas d'oiseaux sur le sable. Et les cercles représentent des trous d'eau. Donc ce sont des oiseaux qui vont boire donc dans ces trous d'eau. Donc cette question de traces dont parlait Barbara est aussi absolument fondamentale en Terre d'Arnhem, puisque les peintures elles-mêmes sont considérées comme les traces qu'ont laissées les êtres ancestraux. Je vais revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Il y a un léger décalage. Donc juste pour revenir à ce que disait Barbara, pour vous présenter d'une façon plus générale l'Australie, donc cette carte représentait en fait tous les groupes aborigènes de différentes langues qui vivaient en Australie au moment de la colonisation. Donc contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il n'y a pas un peuple aborigène, mais des peuples aborigènes, donc environ 500, hein, qui avaient chacun des langues très très différentes, qui du nord au sud du continent ne se comprenaient absolument pas, et qui ont développé des cultures tout à fait différentes en fonction de l'environnement naturel dans lequel elle vivait. Donc Barbara vous a parlé du désert. Les Yolngu dont moi je vous parle vivent en Terre d'Arnhem, donc ça se situe tout en haut, voilà. Ce qui est une zone tropicale, c'est un peuple de la mer, et donc d'autres groupes qui vivent dans les climats tempérés, etc. Donc il y a une très très grande diversité aussi au niveau de la production artistique. Donc là, aujourd'hui, on vous parle de deux groupes, mais il existe bien évidemment beaucoup d'autres formes artistiques aborigènes qui sont vraiment tout à fait différentes. Alors ici, encore une fois, pour vous situer un petit peu ce dont on vous parle, donc en fait, les points rouges correspondent à ce qu'on appelle en Australie des communautés aborigènes isolées. Donc vous voyez que ces communautés aborigènes isolées se situent surtout au centre du continent, dans le désert, et donc au nord du continent et au nord-ouest. Il y a environ 2/3 des aborigènes qui vivent aujourd'hui en ville. Donc les communautés isolées sont une minorité d'aborigènes, et ce sont la plupart du temps des gens qui ont pu toujours rester sur leur terre. Ce qui veut dire qu'il y a eu une continuité au niveau de la transmission des traditions, des rituels, des langues, alors que dans d'autres régions, donc surtout les régions du sud-est en vert ici, qui étaient les régions les plus agricoles, ce sont les régions qui ont été touchées le plus fort par la colonisation, où il y a eu des massacres, des déportations, les générations volées, donc vous savez, les enfants qui ont été retirés à leur famille pour être mis dans des instituts, etc. Donc le centre et le nord du continent correspondent vraiment à ce qu'on considère comme la culture la plus traditionnelle, même si, comme Barbara vous l'a dit, c'est pas parce que c'est traditionnel que ça n'a pas évolué. Alors voici encore une carte différente du continent australien qui a été inventée par un initié de la région des Kimberley du nord-ouest de l'Australie qui s'appelait David Mowaljarai et qui représente ici l'Australie comme un corps et où vous voyez des réseaux qui connectent en fait toute l'Australie, tous les groupes aborigènes entre eux. Donc il existait effectivement, par-delà les distances de milliers de kilomètres, des circuits d'échanges économiques et rituels qui reliaient différents groupes entre eux. Donc certains objets voyageaient sur de très très vastes distances, de la côte par exemple jusqu'au désert. Et donc il y avait des échanges entre ces groupes. Alors la région dont moi je vais vous parler, donc, qui est la Terre d'Arnhem, donc, qui se situe, comme je vous l'ai dit, au nord-est du continent australien, est une des régions qui est connue pour sa très très grande concentration de peintures rupestres. Donc c'est là une partie de l'inspiration des écorces contemporaines, comme vous pouvez voir dans l'exposition ici, s'inspire directement des peintures rupestres. C'est la région au monde où il y aurait la plus grande concentration de peintures rupestres. Les plus anciennes ont plus de 20 000 ans. Et comme vous pouvez voir ici, les plus récentes ont quelques centaines d'années, même quelques dizaines d'années. Donc on voit ici des représentations de bateaux, donc les premiers bateaux européens qui ont navigué près de la côte du nord de l'Australie, qui étaient, en fait, c'est une sorte de chronique historique des différents événements qui avaient lieu dans la région. Voilà, et donc ici, on voit donc de nombreuses peintures rupestres représentent des animaux. Ces deux peintures sont dans l'exposition. C'est un style qui a beaucoup frappé les premiers observateurs blancs, donc à la fois sur les peintures rupestres et en fait les premières écorces peintes de cette région ont été vu par Baldwin Spencer, qui était un anthropologue qui faisait une expédition dans le nord de l'Australie et qui a observé des peintures sur l'intérieur des abris en écorce des familles aborigènes. Donc c'est là, il a vu ces peintures qui l'ont beaucoup frappé et il a commandé, enfin il a, dans le sens il a payé un certain nombre d'hommes de ce village pour lui faire des peintures. Donc il les a payés en tabac pour qu'on lui fasse des peintures, pour qu'il les ramène. Donc c'était la première collection de peintures sur écorce qui sont maintenant dans un musée du Victoria à Melbourne. Et donc ce qui l'a vraiment frappé, et il a écrit à ce sujet donc dans les années 1910-1920, c'est ce qu'on appelle les peintures à rayons X, où on voit l'intérieur des animaux qui sont représentés, donc les organes de ces animaux. Et ces peintures, en fait, ont un double rôle. D'une part, elles montraient les façons de découper le gibier. Donc, comme Barbara vous l'a dit, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Et la découpe du gibier était quelque chose de très important, puisque le gibier était redistribué à la parenté. Donc, c'était très important de savoir quels étaient les bons morceaux, donc les morceaux de choix de la viande, et à qui il fallait les donner dans le groupe. Donc ça, c'est un premier niveau de ces peintures. Ce sont les peintures qu'on voit beaucoup dans les abris sous roche. Ce sont des peintures publiques, puisqu'elles servaient justement à enseigner cet art de la découpe. Un autre type de peinture à rayon X, plus comme le kangourou qu'on voit ici, servait aussi un autre niveau de lecture de ces peintures, sont en fait une carte du paysage, puisque le paysage de la Terre d'Arnhem a été aussi créé par des êtres ancestraux qui pouvaient avoir la forme d'humains ou d'animaux ou de kangourous, etc. Ces ancêtres ont laissé leurs traces dans le paysage et donc en fait on peut, un site va être appelé la tête du kangourou, un site va être appelé le cœur du kangourou, un site va être, et donc ce kangourou sert de carte totémique d'un territoire particulier. Voici un autre type de peinture qu'on trouve à la fois sur les peintures rupestres et sur les premières peintures qui ont été réalisées sur des écorces destinées à la vente. Donc, je vous ai dit que cet anthropologue Baldwin Spencer a avait acheté les premières peintures. Et en fait, il a, c'est après lui que de nombreux anthropologues et collectionneurs sont allés en terre d'Arnhem pour acheter, donc il y a toujours eu une transaction, des peintures aux peintres. Donc les écorces étaient utilisées pour construire les abris temporaires des familles aborigènes. Et disons que ces familles ont commencé à peindre beaucoup plus, à produire beaucoup plus de peintures suite à la demande des premiers collectionneurs. Donc ces êtres qu'on voit ici sont des êtres qui s'appellent Mimi, qui sont un peuple qui vit dans une dimension parallèle à celle des hommes et qui vivent à l'intérieur des rochers. Ils sont toujours représentés, ils ont un aspect filiforme pour pouvoir se faufiler à l'intérieur des craquelures des rochers pour se cacher. L'être d'à côté avec le cercle autour de lui et représente un autre type d'esprit créateur qui s'appelle, c'est un esprit éclair et qui est lié à l'orage, aux éclairs, au tonnerre, etc. Alors je vous disais que les Yolngu de la terre d'Arnhem sont un peuple de la mer qui depuis au moins le XVIIe siècle entretenait des relations commerciales avec des pêcheurs qui venaient des îles célèbres, de Port Makassar, et qui venaient chaque année pour collecter des trépangs, des concombres de mer. Et donc tous les ans, il y avait ces pêcheurs qui venaient et qui commerçaient, qui négociaient en fait leur droit d'utiliser les ressources naturelles locales en payant les propriétaires traditionnels, donc les aborigènes, avec toutes sortes de choses comme du tissu, des couteaux. Donc les aborigènes avaient une connaissance du métal. Vous voyez sur cette peinture ici en haut deux couteaux. Hein, donc il y avait une connaissance du métal et il y avait aussi, donc on voit aussi des pipes. Le tabac faisait aussi partie des choses qui étaient échangées. Et cette influence de ces pêcheurs qui étaient musulmans est très très grande dans les rituels de la terre d'Arnhem. La photo qu'on voit à côté montre, c'est une phase durant une cérémonie de funérailles. Vous voyez les drapeaux et l'usage du tissu. Donc le tissu était aussi apporté par ces pêcheurs qui venaient de Makassar. Et il y a toute une phase des funérailles où pour accompagner l'esprit du mort dans son dernier voyage, il y a une danse qu'on appelle la danse du drapeau et qui en fait serait une représentation des Makassars qui levaient la voile pour quitter les côtes de la terre d'Arnhem et retourner chez eux. Cette influence Makassar est assez peu connue, alors que, comme je vous l'ai dit, elle joue un rôle très important dans les rituels, mais aussi dans la langue. Et par exemple, les Yolngu, avaient un mot pour argent, c'est le mot rupiah, donc qui vient de l'indonésien. Hein. Et le mot qu'ils utilisent pour les blancs, donc les colons blancs qui sont arrivés, c'est balanda. Balanda est une déformation du mot Hollander, qui étaient eux-mêmes, donc les Hollandais, qui étaient eux-mêmes les qui colonisaient donc cette région-là de ce qui est aujourd'hui l'Indonésie. Alors pour revenir à certaines des peintures qui sont liées à la création, donc je vous l'ai dit, ces peintures sont considérées comme des traces des ancêtres. Et on voit ici, enfin on ne voit pas très très bien, mais sur la peinture sur écorce qui est ici, on voit, ce sont deux des principales ancêtres Yolngu qui sont appelés les sœurs Jenkao et qui donnent naissance. Donc on les voit ici qui accouchent des ancêtres des Yolngu. Et en fait, ces deux sœurs sont deux sœurs qui sont arrivées par la mer avec leurs frères, qui sont arrivées en canoë de l'Est et qui ont traversé toute la terre d'Arnhem de l'Est à l'Ouest en suivant la course du soleil et qui avançaient, comme on voit sur la photo qui est ici, qui avançaient avec des bâtons et des bâtons de marche qu'elles plantaient dans le sol et qui créaient à chaque fois des sources d'eau. Donc toutes les sources d'eau presque de la terre d'Arnhem sont liées à ces femmes ancestrales. Durant les cérémonies de funérailles, les Yolngu vont rejouer en fait les parcours ancestraux de ces femmes et vont recréer une sorte de paysage ancestral à travers leurs pas qui vont modeler la piste de danse et les différents trous que les femmes vont faire avec leurs bâtons. Ici, c'est encore une fois la même histoire, mais qui est représentée de façon tout à fait différente. Donc, avec la première peinture qui représente plus dans un style qui est assez proche des peintures du désert, qui représente des itinéraires, donc les lignes représentent les chemins empruntés par ces femmes ancestrales, et les ronds représentent les trous d'eau qu'elles ont créés avec leurs bâtons. Et la peinture d'à côté qui est exposée dans l'exposition La Fabrique des images, c'est encore une fois la même histoire, mais là on se concentre sur un site en particulier où ces femmes ancestrales ont rencontré et nommé les animaux qu'elles ont rencontrés sur ce site. Et donc les animaux qu'on voit ici, qui sont représentés, donc les varans et l'outarde et les chenilles, sont associés à ce site bien particulier et sont chantés dans les champs associés à ce site-là aussi. C'est le même peintre qui a réalisé ces deux peintures. Et donc vous voyez, on peut représenter la même histoire sous des façons qui sont vraiment complètement différentes. Et les hommes et les femmes de ce clan, donc du clan de ce peintre, vont dire qu'ils descendent de ces femmes ancestrales, mais ils vont aussi dire, ils vont dire « je suis l'outarde », pour parler d'eux. Donc il y a une identification qui se fait aux différents êtres qui ont été créés par ces sœurs ancestrales comme eux. Et là, c'est encore une fois la même histoire, représentée de façon complètement différente, donc de façon figurative, où on voit, donc là, cet homme que vous voyez ici est le fils du peintre précédent, donc les peintures précédentes datent des années 60, là on est donc 40 ans plus tard, et c'est le fils qui peint la même histoire de façon complètement différente, donc les deux femmes dans leur canoë qui arrivent et qui nomment, qui arrivent en terre d'Arnhem et qui nomment les différentes espèces rencontrées. Alors là, en terre d'Arnhem, tout ce qui existe est divisé en deux moitiés. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué chez les aborigènes australiens, toutes ces histoires de parenté. Pour les Yolngu, tout ce qui existe dans l'univers fait soit partie de la moitié Dua, soit partie de la moitié Yiricha. Les animaux, les plantes, les ancêtres, les sites, les objets sacrés, les phénomènes naturels, les phénomènes météorologiques, tout est soit l'un, soit l'autre. Une femme Doua doit toujours épouser un homme Yiricha et vice-versa. Et une femme, les enfants d'une femme seront toujours de l'autre moitié puisque un enfant hérite de la moitié de son père. Donc on voit ici une famille et on voit donc ces moitiés. Donc la vieille dame qui est au fond, qui est la grand-mère en fait, qui est Yiricha, ses filles sont Doua, ses petites filles sont Yiricha et ses arrière-petits-enfants sont à nouveau Doua. Donc c'est pour vous montrer que ces deux moitiés coexistent, hein, au sein d'une même famille. On trouve des gens des deux moitiés. Les peintres Doua ont leurs propres ancêtres, leurs propres peintures, leurs propres champs, leurs propres terres, et c'est la même chose pour l'autre moitié. Donc les sœurs Jenkao dont je vous ai parlé font partie de la moitié Doua. Ici, ça vous montre les pigments qui sont utilisés par les peintres, qui sont toujours utilisés par les peintres aujourd'hui pour réaliser les peintures. Donc ce sont des pigments naturels, des ocres. Donc la palette de base, hein, c'est en terre d'Arnhem, la plupart des peintres utilisent toujours les quatre couleurs traditionnelles, donc le rouge, le jaune, le blanc et le noir. Et chacune de ces couleurs a une affiliation mythique qui lui est propre. Par exemple, un site d'ocre rouge, ce sera le site où le kangourou s'est fait percer d'une lance et a saigné et le sang s'est transformé en ocre rouge. Le jaune pourra être, par exemple, la graisse d'un ancêtre, un émeu qui est tombé et sa graisse a coulé et ça a créé un site d'ocre jaune. Donc les peintures elles-mêmes sont très importantes et ces pigments étaient échangés entre les groupes et étaient considérés vraiment comme des objets d'échange de grande valeur. Ici, on voit les peintures dans leur contexte rituel. Donc, les peintures qui sont aujourd'hui faites sur les écorces sont les peintures aussi qui sont des peintures rituelles et qui sont plus particulièrement les peintures les plus sophistiquées, disons, de cette région sont celles qui sont réalisées durant l'initiation des jeunes garçons. Donc, ça correspond à la cérémonie de circoncision aussi. Et donc, au moment de cette initiation, on peint sur le torse de l'enfant des motifs qui correspondent à son clan, aux histoires et aux êtres ancestraux de son clan. Donc, il va y avoir des maîtres peintres qui sont en fait des peintres qui sont reconnus pour, d'une part, leur grande connaissance de la loi ancestrale. Donc, ils connaissent très bien la loi ancestrale. Ils sont eux-mêmes initiés. Et ils sont aussi reconnus pour leur talent à ce qui est très important dans cette région, c'est à faire briller les peintures. Il y a une idée de faire briller les peintures, de faire scintiller les peintures. Et ce scintillement, cette brillance qu'on voit notamment sur la peinture ici avec l'utilisation du blanc, et pour les Yolngu, cela manifeste le pouvoir ancestral. Donc cet effet avec les hachures qu'on retrouve aussi sur les peintures de cette région, cet effet de scintillement vraiment représente le pouvoir des êtres ancestraux et ce pouvoir qui est lui-même contenu dans les peintures. Et là, vous voyez une autre phase de cette cérémonie d'initiation où les peintures, on a peint sur ces garçons les peintures du requin ancestral. On les voit ici en train de danser, donc c'est la position, ça fait partie de la danse du requin, et à gauche, donc une peinture du requin ancestral. Alors là, on passe à l'autre moitié, ça c'est la moitié Yiricha, qu'on reconnaît tout de suite par l'utilisation de losanges dans les peintures. Comme vous voyez ici, donc on a en fait des peintures de quatre clans différents. Il y a environ une quarantaine de clans différents dans les deux moitiés. Et en fait, chaque clan a son propre motif. Donc vous voyez ici que si ces quatre clans utilisent chacun des losanges, ces losanges sont différents. Et un Yolngu pourra dire immédiatement, en voyant une peinture, c'est le losange de tel clan, etc. Et chaque losange a sa propre histoire. Donc dans la peinture qui s'appelle « Losange Gupapuingu », ça représente les alvéoles d'une ruche d'abeilles. Donc avec les différentes couleurs représentant les alvéoles qui sont pleines de miel, celles qui n'ont pas de miel, et les larves qu'on trouve à l'intérieur de ces ruches. À côté, losange Gumach, ça représente le feu, les flammes, la fumée. Donc on va revoir une peinture de ce type après. Les losanges d'Alwangu, qui sont en bas, représentent des traînées d'algues qui sont apparues sur le corps d'un des êtres ancestraux liés à ce clan, qui sortait de l'eau, et donc il y avait des algues qui pendaient sur son corps et qui ont créé donc ce losange. Donc là, on revient à un losange particulier qui est celui des Gupapuingu. Donc en fait, la peinture sur écorce que vous voyez ici représente l'arbre que vous voyez en haut à gauche. Cet arbre est un arbre centenaire qui pousse sur la terre du clan Gupapuingu. Et les membres de ce clan vont dire que cet arbre, c'est eux. Il y a une association entre eux et cet arbre, qui est représenté ici sous forme d'un objet rituel qui représente cet arbre avec les alvéoles de la ruche de la ruche d'abeilles, et en bas les hommes qui sont peints de ce même motif durant une cérémonie. Donc voilà la peinture du feu dont je vous ai dit deux mots tout à l'heure. Donc là, on est encore une fois, on est dans un autre clan qui utilise le losange. Ce jeune garçon est peint donc une peinture qui représente le feu. Donc le rouge représente les flammes, le blanc représente la fumée, le noir représente le charbon. Et c'est un motif qui est aussi associé au crocodile ancestral. C'est un clan qui, lui, se revendique du crocodile ancestral. Et en fait, l'histoire de ce motif est que durant donc, un temps, il y a très longtemps, un homme crocodile s'est disputé avec son épouse et ils se sont bagarrés et l'homme est tombé dans le feu et s'est fait brûler. Et en fait, les marques de brûlure se sont transformées en écailles du crocodile. Donc c'est losange qu'on voit sur la carapace du crocodile. Donc c'est ce motif-là qui est représenté sur ce petit garçon. Et voilà, donc sur un support plus moderne, c'est de l'acrylique sur toile qui reprend ce même motif. C'est le même peintre qui a peint le garçon et qui est aussi un peintre contemporain qui est très connu. Donc souvent, on entend dire qu'il n'y a pas de terme artiste chez les différents groupes aborigènes, mais il y avait quand même certaines personnes qui étaient reconnues comme ayant vraiment un meilleur talent d'artiste, comme certains étaient reconnus comme ayant un meilleur talent de chanteur pour chanter les chants rituels ou de meilleurs danseurs. Donc il y a des hommes qui sont chargés de peindre durant les cérémonies et très souvent, ce sont ces mêmes personnes qui sont très connues aussi sur le marché de l'art contemporain. Donc, ce qui a vraiment déclenché en Terre d'Arnhem le mouvement d'art contemporain, donc comme je vous l'ai montré, ce sont aussi des peintures qui s'inspirent largement des peintures rituelles. Et à partir des années 50-60, il y a eu vraiment un boom avec un certain nombre de collectionneurs. Donc ici, on voit Karel Kupka, qui était un collectionneur anthropologue français d'origine tchèque, qui était au CNRS. Et la plupart des peintures sur écorce du musée du Quai Branly ont été rassemblées par Karel Kupka en Terre d'Arnhem. Et donc, c'est vraiment parce qu'il y avait un très grand intérêt de la part des collectionneurs que les anciens ont commencé à transposer les motifs rituels sur des supports transportables destinés à l'extérieur. Donc ce sont les peintures qu'il y a aujourd'hui dans les musées. Donc ce sont les peintures qui sont dans l'exposition La Fabrique des Images sont des peintures de cette collection. Donc ce sont les années 60, ce ne sont pas des peintures qui sont très très vieilles. Donc on peut dire d'une certaine façon que c'est aussi de l'art contemporain puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu un changement de support. Voici la communauté, une des communautés de la Terre d'Arnhem aujourd'hui, pour vous donner un peu une idée. Donc on est sur l'île d'Elco, c'est là où moi j'ai fait mon terrain pour ma thèse. Il y a environ 1800 habitants qui vivent sur cette île. Alors, je vais passer à un aspect de ma recherche, donc qui se rapporte à une certaine partie de ma recherche, donc doctorale et postdoctorale. Donc ces collections qui ont été réunies dans les années 60 et qui sont aujourd'hui dans les musées du monde sont très recherchées par les aborigènes eux-mêmes, qui sont les descendants directs. Donc on est une génération après. Hein. Donc là, vous voyez sur cette photo quelqu'un qui s'appelle Joy Gumbola, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé en Terre d'Arnhem, et qui a voyagé dans plusieurs musées, notamment au musée du Quai Branly, pour regarder dans les archives, retrouver les peintures de son père, de son grand-père, etc. Donc il y a une volonté de savoir ce qui se trouve dans les archives, non pas parce que les gens ont oublié comment peindre, puisque vous avez vu des peintures qui sont tout à fait contemporaines, mais pour savoir comment leurs ancêtres peignaient certaines histoires qu'eux continuent à peindre, mais peuvent peindre d'une façon tout à fait différente. Et donc il y a un véritable intérêt, et donc on le voit ici dans les archives d'un musée de Melbourne, avec deux peintures, une faite par son grand-père paternel, une par son père, qui représente un esprit qui s'appelle Murayana. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai pu suivre en fait le mouvement à partir du moment où Joe a retrouvé ses peintures dans les collections d'un musée, en a fait des copies numériques, puisque maintenant dans les communautés il y a toujours quelques ordinateurs et donc les gens demandent des copies numériques des peintures des musées, donc on n'est pas du tout dans une demande de rapatriement physique des œuvres, mais numérique. Il a rapporté les œuvres qu'il a montrées à ses frères et à sa famille. Et ça a donné lieu à un très grand mouvement où il y a eu une très grande cérémonie qui a été... recréée dans le cadre d'un festival qui a lieu tous les ans en terre d'Arnhem qui s'appelle le Festival de Garma, qui accueille environ 2000 personnes du monde entier qui peuvent venir à ce festival, et où ce clan des Gupapuingu a fait toute une cérémonie autour de cet ancêtre Murayana qui avait été, dont les peintures avaient été trouvées dans un musée. Donc encore une fois, c'est pas parce que les gens ont oublié, hein, c'est pas ça, c'est que parce qu'ils avaient retrouvé ces peintures, c'était une façon de faire revenir l'esprit de cet ancêtre et célébrer l'esprit de cet ancêtre et de réunir tout le clan autour de cette célébration. Donc ici, on voit des femmes qui regardent. Donc dans le cadre de mon projet de recherche au musée du Quai Branly, j'ai rapporté des images de toutes les peintures de la collection Karel Kupka qui sont ici. Et j'ai essayé d'identifier les descendants des peintres pour leur montrer donc les peintures en question. Et ici, c'est juste pour vous montrer... la continuité en fait qui existe entre la peinture qui est à gauche, qui est une peinture donc qui date des années 60, et ce qui se fait aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a quand même une très grande continuité visuelle hein, au niveau des œuvres, même si les gens utilisent parfois aujourd'hui de l'acrylique et des toiles. Et donc ici on a un père, sa fille et son petit neveu. Et donc là, encore une fois, vous reconnaissez maintenant la peinture centrale, qui est une peinture des années 60 de la collection Karel Kupka, donc qui représentait l'arbre à miel avec la ruche d'abeilles, et deux versions contemporaines de cette même peinture faite par son fils. Voilà, je vais finir avec cette image. Donc ici, c'était un événement très important, puisque c'était une exposition qui a eu lieu à Bâle au musée Jean Tinguely, donc musée d'art contemporain à Bâle en 2005. C'était une rétrospective du peintre de l'ouest de la terre d'Arnhem qui s'appelle John Mawunjul, il y a aussi certaines œuvres au musée du Quai Branly, et notamment c'est lui qui a peint le plafond, enfin une de ses œuvres a été reproduite sur le plafond de la librairie, vous savez le magasin du musée. Donc c'est une de ses œuvres qui a été reproduite sur ce plafond. C'est un des plus grands artistes, un des artistes les plus célébrés en Australie. Et cette exposition à Bâle était importante puisque c'était la première fois qu'il y avait une rétrospective d'un artiste aborigène dans un musée d'art contemporain en Europe. Et donc ça montre vraiment qu'il y a eu un changement de perspective entre les vieilles écorces qui étaient donc considérées comme des objets d'intérêt ethnographique, qui étaient dans les musées ethnographiques, à aujourd'hui où il y a vraiment une reconnaissance de ces artistes comme des artistes donc d'art contemporain. Et on voit les petits posters, vous voyez peut-être pas très bien, mais on voit donc qu'il est exposé, donc l'affiche est exposée à côté de Magritte.
Bien, merci beaucoup. Donc s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, c'est le moment.
Moi j'aurais volontiers une question. J'ai entendu dire, votre avis, que cette recherche de la lumière, cette recherche de la brillance que vous avez dite, c'était justement une des raisons qui les faisait aimer la peinture acrylique.
Oui, et l'utilisation de vernis, par exemple, pour faire en sorte que l'ocre ne se détache pas. Donc, ils mettent du vernis parfois. Et oui, tout à fait. Oui. C'est parce que c'est l'idée du reflet, comme le reflet dans l'eau ou le reflet de la lumière dans l'eau ou sur la peau d'un serpent, donc le serpent arc-en-ciel avec la réfraction de la lumière, etc. Donc, oui, tout à fait.
Vous pourrez raconter l'histoire de Golombou.
Ah oui. Oui. Et justement, effectivement, donc peut-être que vous avez vu, parce que c'est pas, on ne le voit pas toujours si on ne sait pas que c'est la commande publique d'art aborigène donc du musée du Quai Branly, le bâtiment administratif du musée, vous verrez en sortant, côté rue de l'université, en fait, l'architecte Jean Nouvel a souhaité, au moment de la construction du musée, qu'il y ait l'intégration de motifs aborigènes, de peintures aborigènes, dans le bâtiment. Et donc, il y a eu ce qui s'appelle la commande publique d'art aborigène, où 8 artistes aborigènes contemporains ont été choisis pour représenter chacun leur région sur ce bâtiment dont les plafonds en fait, de chaque étage ont été peints à partir, donc ce ne sont pas les peintres eux-mêmes qui ont peint, mais c'est à partir de leurs œuvres, ces plafonds ont été peints. Et donc Golombo Yunupingu, qui est... je vais peut-être retrouver... pendant que je vous parle, qui est l'artiste de la Terre d'Arnhem qui était sollicité pour peindre le deuxième étage. Elle a fait une peinture d'un ciel étoilé. Voilà, donc ça, c'est le bâtiment administratif, donc rue de l'université. Et voilà le plafond étoilé. Donc c'est un ciel étoilé, ça s'appelle l'univers. Et ça représente donc un ciel.